RMC Running, Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running. Vous le savez, c'est le podcast d'RMC dédié à tous les passionnés de la course à pied. Alors toutes les semaines, tu vas trouver ici des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et des bons plans d'ossard ou matos pour t'aider à rester motivé. Et le grand plus d'RMC Running, c'est notre maître Yodu, l'athlète membre de l'équipe de France de marathon, Johan Durand. How are you, Johan?
Fine and you?
Ah, je crois que tu parlais pas anglais, ça m'a rassuré. Bon, ça va, t'es en forme?
Oh ben, des petites phrases comme ça, par-ci, par-là, ouais, pour faire style que tu parles, c'est facile. Ouais. Mais quand t'es plongé au cœur de... Ouais. Encore au Kenya, ça va. Quand un Kenyan parle anglais, j'arrive à le comprendre. Mais si tu me mets au milieu de l'Écosse, avec l'accent, tu comprends.
T'es sérieux, là? Nous, on avait eu Kipchoge pour le lancement d'RMC Running. C'était horrible, l'accent. C'est trop dur.
Mais non, c'est facile. Il roule l'air, c'est tout.
Ah ouais.
My friend.
C'est ça, à peu près. Alors justement, on va parler rêve américain cette semaine dans RMC Running, American Dream. Deux invités pour en parler avec nous. On va recevoir Emeline Delanis, 12e du dernier marathon de Chicago, qui a réalisé la majeure partie de sa formation aux États-Unis. On sera également avec Martin Casse, ancien athlète de haut niveau, fondateur d'Elite Track and Field, référence française dans le placement et l'accompagnement de jeunes athlètes français aux États-Unis. Et puis la séance d'entraînement, Maître Yodu, sera d'actualité. Comment poursuivre l'entraînement pendant un séjour au sport d'hiver? Et oui, on est en pleine vacances de février.
Donc on tu mange vas pas
nous...
de raquettes.
Ouais, voilà, tu vas nous donner quelques conseils. On aura également un bon plan d'ossard, 5 dossards à gagner pour le Tour de Houille. C'est l'une des plus anciennes courses de France. Ça va se dérouler le 26 mars, on vous dira tout. Et toujours ce même conseil, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Strava notamment. Et mettez des notes sur les plateformes de téléchargement avec des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, on va traverser l'Atlantique.
Bonjour et merci de m'avoir sur le podcast.
Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici et à qui ai-je l'honneur?
Tu es une sportive de haut niveau, tu fais de la course à pied.
Avec Emeline Delanis, championne de France du 3000 mètres steeple.
Bah, je m'attendais pas, je suis contente d'avoir encore des jambes à la fin.
Et bah, qu'est-ce que c'est votre spécialité à vous?
Non, moi je suis plutôt polyvalent.
J'ai faisais beaucoup, un peu de tout. J'ai fait de la perche, du javelot, du saut à hauteur, longueur, j'ai vraiment tout fait.
Tu te dis quoi exactement?
Elle veut s'installer aux États-Unis et elle reste là-bas.
Moi j'étais vraiment pressée d'y aller parce que j'avais vraiment envie d'un changement, d'un départ et j'ai toujours aimé les challenges.
L'Amérique, ah, je veux la voir. Incroyable. Eh oui, rêve américain aujourd'hui au programme, donc avec Emeline Delanis, espoir féminin tricolore pour le marathon de Paris en 2024. Elle est avec nous en direct de Caroline du Nord. Salut Emeline.
Salut à tous.
How are you, my friend?
I'm good.
Emeline Delanis, c'est 2h32 et 36 secondes au dernier marathon de Chicago alors que tu découvrais la distance. Yodu, tu la connais de nom? Vous êtes jamais rencontré?
Bah, de nom, de par ses performances ces derniers temps, on s'est jamais rencontré parce qu'on n'est pas du tout de la même génération et qu'elle passe certainement très peu de temps en France, comme moi j'en passe très peu aux États-Unis, donc on s'est jamais croisé. Ouais. Mais non, c'est 2h32, m'ont fait un peu découvrir la personne, quoi.
Eh ouais, première française donc sur le marathon de Chicago.
Mais ça, c'est fort aussi.
On aura le temps de parler de Paris 2024, des minima, du rêve d'Emeline, pourquoi pas. Mais toujours cette question pour démarrer, Emeline Delanis, pourquoi tu cours, tout simplement?
Pourquoi je cours? À la base, c'est pour la performance, j'aime bien me surpasser, puis parce que j'aime bien courir.
Voilà, tout simplement. Ça aère l'esprit.
C'est simple.
Voilà. Allez, Emeline, on attaque tout de suite ton CV de coureur.
RMC, le CV de coureur.
Tu as quel âge aujourd'hui, Emeline?
25 ans.
Et tu cours depuis quand?
J'ai commencé de l'athlétisme en général à 12-13 ans.
Ah ouais, donc tu as commencé assez tard finalement, non?
Bah, je faisais un peu de tout au début. Après, ouais, tout ce qui est course de fond, vraiment me mettre au demi-fond, j'ai commencé quand je suis partie aux États-Unis, du coup en 2015.
Eh ouais. Emeline, aujourd'hui, tu cours combien de fois par semaine?
Actuellement, je suis blessée, mais normalement, on va dire 10-12 fois par semaine.
Ah oui, donc évidemment, ça représente quel volume hebdomadaire à peu près lorsque tu es en prépa marathon?
J'ai été jusqu'à 180.
Ah oui, gros volume.
Ah, pas mal.
Un record perso dont tu es fière, Emeline?
Je dirais le marathon à Chicago.
Ah oui, évidemment. Quelle est ta dernière course disputée, justement?
Le marathon à Chicago.
Ouais, c'était le dernier.
Actuellement, non, j'ai fait un cross quand je suis rentrée en France. Mon retour en France, j'avais fait le cross au Mans.
Ok, dans la Sarthe. Voilà, chez Christelle Donné, quoi. Voilà.
Les rillettes.
Ouais, les rillettes. Quelle sera ta prochaine course? Bah, si tu es blessé, c'est dur à dire, du coup.
Oui, voilà, c'est un peu compliqué, là. Bon, Je ne sais pas encore, mais on verra.
Bon, on garde espoir quand même. Quelle est ta séance d'entraînement préférée?
Je dirais un footing, les footings longs, enfin les sorties longues.
Ouais, oui, comme tout marathonien, Yodu, ça marche toujours.
C'est ça, ça marche toujours.
Évidemment.
La sortie longue.
Et attention, le bingo des RMC Running, la séance que tu détestes?
Il y en a. je dirais un truc rapide, assez long et rapide. Enfin, par exemple, un miles, 1200, 800, 400, mais vraiment rapide. Ça, les trucs rapides avec des grandes récup, j'aime pas.
Ok, alors Emeline, on t'aime beaucoup, mais ici on va parler en kilomètres, parce que le miles, on va vite être perdu. Désolé, c'est ta formation américaine qui te fait parler comme ça. Un mile, c'est quoi? Un kilomètre 6, hein, c'est ça?
Ouais, c'est ça, 1600 mètres.
Bon, merci en tout cas, Emeline. On est ravis de t'accueillir cette semaine dans RMC Running. On le disait, t'as pas démarré forcément par la course à pied, c'était pas le sport familial, c'était plutôt la natation. Donc t'as été obligée d'aller dans la piscine avant de courir, hein, c'est ça l'histoire?
Oui, c'est ça. Enfin, j'ai fait longtemps de la natation. Après, c'était vraiment pas ce que j'aimais le plus. Mais comme bah, dans ma famille, ils faisaient tous un peu de la natation, c'est vraiment le sport parce que j'ai commencé. Quoi.
J'ai lu aussi que tu étais allé jusqu'à te disqualifier sur un 50 mètres pour ne plus avoir à faire ça.
Ah ouais, voilà, c'était
un vrai débat familial, là. C'est bon, là.
Non, mais c'est vrai que je me rappelle encore. Moi, j'étais plutôt bien sur brasse. Donc, sur la brasse, c'est assez facile de se disqualifier. Si on ne touche pas avec les deux mains, c'est bon, quoi. On est disqualifié. Donc, c'était assez simple. Et non, enfin, la natation, moi, ce que je voulais, c'était aller jouer dans l'eau. Donc, il n'y avait aucun intérêt à continuer, quoi.
C'est particulier d'aborder une compète avec l'esprit de se disqualifier. Hein. C'est pas mal, ça.
En fait, ce que je voulais, c'est vraiment aller jouer dans le petit bain. Et ouais. C'est triste à dire, mais du coup, c'est vrai que j'avais vraiment... Ouais... Aucune motivation à faire de la compétition.
On te comprend, Yodu joue encore dans le petit bain. La natation, c'est pas trop ton truc. Là,
dans le pédiluve.
Oh, c'est horrible, t'imagines? Tu nages dans le pédiluve. Bon, évidemment, ensuite, tu viens à la course à pied. T'es plutôt attiré par le court au début, hein, par la piste et les distances courtes, Emeline, je crois.
Ouais, c'est ça. Bah, quand j'ai commencé, c'est vrai que j'aimais vraiment tout faire. Même, j'ai fait beaucoup de javelot, de saut en hauteur, j'ai fait la perche, j'ai vraiment tout fait. Et c'est vrai que tout ce qui était cross ou même faire un 1000 mètres, alors là, non, c'était vraiment pas mon truc. Moi, c'était vraiment tout ce qui était court ou même les haies. Mais alors le long, non.
C'est marrant ça, parce que habituellement, les marathoniens qu'on reçoit, Yodu, ils ont quand même une certaine appétence pour les distances un peu plus longues au début, quoi. Ouais.
C'est vrai. Souvent, hein, quand t'aimes, tu le sens très vite quand t'es jeune si t'es attiré par le long ou par le court, de par tes aptitudes physiques et tout ça. Et c'est vrai que bah, pour le coup, là, c'est... C'est l'inverse.
Bah en fait, ce que je voulais, c'était courir vite. Après, malheureusement, je suis peut-être pas faite pour courir vite.
Voilà.
Donc voilà.
T'avais
pas le profil. Après, c'est vrai que ouais, j'avais pas le profil. Après, j'insistais un peu à vouloir continuer à faire tout ce qui était 400, 800. Puis j'ai vite vu quand je suis arrivée aux États-Unis. En fait, c'est là que j'ai vraiment vu que sur le long, j'étais beaucoup mieux.
Et t'as fait des
haies
et du
steep. Ouais, j'ai fait des haies et du steep. J'en ai fait jusqu'à espoir du style.
Parce que Emeline, on se moque souvent de Yodu et de son physique de moustique, mais t'es pas non plus un gros
c'est
gabarit.
Ça, voilà.
faut être honnête.
Hein? Dis-moi, je suis un moustique.
Ouais,
c'est
ça. C'est ça.
Non, mais...
Est-ce que tu pèses 50 kilos? C'est pas sûr, Emeline.
Non. Non.
Et tu fais 1m60?
Ouais, voilà. Après, je fais 1m60 pour pas dire 1m59. Hein.
D'accord. Ah oui. Vraiment, t'as une moustique, quoi. Voilà. Et tu chausses du 28, il paraît. C'est ça.
Ouais. Non,
je plaisante.
38 de la pause.
Et donc, cette révélation ensuite, en 2015, avant ton départ justement aux États-Unis, révélation sur une séance de 800. Là, tu comprends que tu t'éclates un peu plus sur les distances un peu plus longues, déjà. On n'est plus sur du sprint ou de la haie, quoi.
Ouais, c'était avant les États-Unis. Enfin, ouais, la saison indoor. Avant de partir aux États-Unis, que j'avais essayé mon premier 1500. Et pour moi, 1500 avant, c'était long. Donc, et c'était vraiment. Enfin, j'avais pris plaisir à courir sur 1500 mètres. Et c'est de là que j'ai commencé à faire plus que du 800 mètres.
Alors, comment arrive dans ta tête l'idée de partir étudier aux États-Unis ? Est-ce que tout de suite c'est lié au sport ? Est-ce que tu veux cumuler les deux ? Ou est-ce que c'est avant tout une aventure humaine et une expérience ?
Ah non, enfin, c'est pas du tout par rapport au sport, vu que, enfin, vraiment, j'étais, avant de partir là-bas, c'est vrai que je m'entraînais 2-3 fois par semaine. C'était histoire d'aller voir ma meilleure amie, de m'amuser après les cours. Donc, c'était vraiment pas dans l'optique de faire de la performance. C'était vraiment déjà pour apprendre l'anglais, puis avoir une expérience à l'étranger. Puis ça m'a tout de suite attirée, donc c'est vrai que je sais pas vraiment d'où c'est venu, mais je savais que je voulais partir aux États-Unis.
Et comment tu fais les démarches ? Parce que tu n'as pas encore rencontré l'excellent Martin Casse qu'on va présenter dans un instant, lui qui est le spécialiste pour envoyer les jeunes Français comme ça vivre leur rêve américain. Comment ça se passe ? Comment tu fais tes recherches ? Est-ce que ta famille t'aide ? Est-ce que tout de suite on décide de l'endroit où on va t'envoyer ? Comment ça se passe ?
Non, on m'a pas aidé pour ça. Ce qui m'a fait me lancer là-dedans, c'est que j'avais écouté ou entendu Elsa, qui était elle partie, Elsa Racassin, qui était partie aux États-Unis. Et de là, du coup, j'avais fait mes recherches et j'étais tombée à l'époque, c'était Scholar Book avec qui je suis partie. C'était une agence aussi, comme, un peu comme Martin maintenant. Donc, je les avais contactés, mais bon, au final, ils m'ont pas énormément, sans faire vraiment de mauvaise pub, pas vraiment aidé, puisque j'ai trouvé mon université toute seule. Ouais. Je savais exactement, je voulais aller en Californie, donc j'ai contacté moi-même après avec mon anglais, comme j'ai pu les coachs en Californie.
Tu pars à quel âge ?
J'avais 18 ans.
Et donc tu pars en Californie, tu atterris où exactement ?
À Sibiu, c'est entre Los Angeles et San Diego, c'est au milieu par là.
Ok, t'as pas choisi Salt Lake City quoi.
Ouais. Non, c'est pour ça que je savais vraiment où c'est que je voulais aller quoi. Je voulais aller en Californie.
Alors, immédiatement quand tu arrives, est-ce que tu reprends le sport ? Est-ce que tout de suite tu découvres une méthode d'entraînement complètement différente ?
Ah ouais, pour moi tout était nouveau vraiment. Avant, j'avais jamais fait un footing plus de 40 minutes. Alors là-bas, le premier jour, on me dit c'est 50 minutes, une heure. Donc ouais, c'est vrai que ça a été un gros changement au niveau de l'entraînement, même de passer de 2-3 entraînements à semaine à 6. Oui. C'était énorme. Enfin, tout était vraiment différent. C'était vraiment un choc.
Parce que tu passes en gros de 3 à 6 entraînements hebdomadaires, c'est un volume kilométrique de 15 à 60 km. Hein. Voilà, ça paraît pas grand-chose, mais c'est vrai qu'il faut s'adapter à ce type de changement. Rappelle que quand tu arrives, tu es toujours spécialisé sur les distances courtes. Hein. Tu n'es pas encore sur le fond, mais c'est justement un entraîneur américain qui va te persuader que tu es plutôt faite pour les distances plus longues, Emeline.
Oui, voilà, c'est mon coach, mon coach principal que j'avais à CBU qui m'avait déjà, il m'avait forcé à faire un 3000, je me rappelle, à l'entrée de la saison en février, parce qu'il a dit que toutes les filles de l'équipe font le 3000, mais c'est vrai que moi, à la base, je lui avais dit, enfin, je veux pas faire plus de 1500 mètres. Donc, il m'avait mis sur 3000 et c'est vrai que je me sentais bien sur le 3000. Bon, j'avais pas voulu continuer la saison sur des distances comme ça, donc j'étais restée sur 800-1500, mais c'est plus tard qu'il m'avait dit, tu verras, mais ta dernière année, tu feras du 10 000. Et j'ai dit, ouais, on verra.
Et ça a marché.
On verra, et voilà.
Alors, Yodu, on a bossé nos dossiers. Évidemment, Emeline nous raconte seulement une partie de l'histoire, mais moi, je vais te raconter la vraie histoire.
La vraie. Yodu.
C'est qu'évidemment, Emeline, à 18 ans, quand elle débarque en Californie, elle vit sa vie d'étudiante. Donc, soirée étudiante et compagnie, tout ça.
Ah, voilà.
un peu d'entraînement, mais bon, c'est pas non plus la priorité. Et jusqu'à un électrochoc, l'arrivée dans le groupe d'entraînement des athlètes hongroises. Pam, là, ça joue la compète. Et là, ça t'a mis un coup de boost. Là, tu t'es dit, ah, là, ça va plus rigoler. Et là, faut que je sois au niveau, Emeline.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est la deuxième année quand il y a des Hongroises qui sont arrivées et une autre fille qui était d'Afrique du Sud. C'est vrai qu'elles étaient vraiment compétitives et à fond dans la course à pied, dans leur carrière sportive. Et c'est vrai qu'au final, j'étais à l'entraînement aussi, je crois que c'était beaucoup plus la compétition entre nous. Et c'est ça qui m'a un peu donné envie d'être plus sérieuse, en tout cas, à l'entraînement et de me donner plus les moyens.
C'est marrant parce que Yodu, il croise souvent des athlètes kényans, mais il a toujours envie de faire la fête. Ça n'a rien changé. Voilà, vous mangez des chocolatines.
J'essaye de les embrigader. D'embrigader les Kenyans dans la fête. Mais...
Ouais, tu peux y aller.
C'est sérieux.
Comment ça se passe ton changement? Parce que tu démarres à Los Angeles, ensuite tu files à Boston College. C'est quoi l'histoire? Comment ça s'est passé?
Pas pareil.
Pas pareil. C'est malheureusement, c'était peut-être pas le meilleur choix que j'ai fait. Mais le coach avait changé, du coup, on passait de division 2 aussi, d'une école de division 2. Peut-être que Martin.
Martin, il est là.
Plus tard.
Il hoche la tête, il va tout nous expliquer, t'inquiète pas.
Mais du coup, l'école est passée de division 2 à division 1, donc je pouvais plus faire les nationaux ni les compétitions, les nationaux pendant 4 ans. Plus le coach avait changé et je ne m'entendais pas du tout avec le nouveau coach. Donc je pense, c'était pour moi le moment de changer, puis j'avais envie d'une grosse école pour avoir mon master et avoir une expérience aussi du coup en division 1 et tout en pouvant faire les nationaux. Donc c'est vrai que j'ai choisi Boston College.
Et t'as pas l'air d'être convaincue. Pourquoi c'était pas un bon souvenir
Après ça a pas vraiment été des bonnes années. Là-bas, parce que c'était un énorme changement. Puis j'ai fait vraiment une dépression en allant là-bas. Enfin, ça me plaisait pas du tout.
D'accord.
C'était vraiment très compliqué. Et c'était pas le meilleur choix que j'ai fait. Malheureusement, j'avais pas passé. C'était je sais plus le nom de cet examen, mais je devais faire un examen normalement pour pouvoir rentrer en master dans les grosses universités. Donc j'avais une bourse qui était possible en Floride.
On me souffle le GMAT, c'est ça?
Ouais, voilà, c'est ça.
Ah,
ouais,
il est là,
le GMAT. Bah, et malheureusement, j'avais pas eu le temps de le faire. Et moi, ce que je voulais, c'était vraiment partir parce que le coach, je pouvais plus. Donc j'ai choisi Boston parce qu'on me l'avait pas demandé et que j'avais été acceptée dans le programme, dans le master là-bas.
D'accord. Parce que d'un point de vue sportif, il y a quand même des perfs de référence et c'est peut-être aussi à ce moment-là que tu te dis que tu as un niveau assez intéressant. En 2018, à Los Angeles, tu réalises la 9e perf de tous les temps en espoir chez les tricolores sur 5000. Là, c'est quelque chose quand même. Là, tu as un niveau qui est quand même conséquent, quoi.
Oui, c'est ça. Bah, c'est ça qui a un peu débloqué, je pense. C'est quand j'ai commencé à faire le 5000 que ça m'a ouvert des portes pour avoir des sélections aussi avec l'équipe de France.
C'est une distance sympa, ça, le 5000, Yohann Durand ?
C'est la meilleure.
Oui, ça l'a révélé, celui-là, ce coquin aussi. Et ouais, mais t'as un peu le même parcours au niveau des distances. Bah non, parce que toi, t'as fait du cross assez
non,
vite.
Non, moi, j'étais quand même attiré par le long.
Ouais.
Mais
le 5000, c'est ton truc.
Je faisais mes meilleures perfs sur 1500, bizarrement, sans forcément le préparer. J'étais quand même doué pour le 15, parce que j'étais vice-champion d'Europe Espoir. J'avais été plusieurs fois vice-champion de France.
Il a un bout là.
Sur le 15, alors que je le préparais pas du tout et je le courais pas. Mais le 15, c'est une course tactique, donc c'est aussi une histoire de placement et d'intelligence de course. Et là-dessus, j'étais plutôt pas mal, ouais.
Alors évidemment, ces années se passent et puis tu te rapproches un petit peu de la France. Évidemment, le plus beau pays du monde te manque, hein, Émile. En 2020, tu reviens justement, tu recommences à faire des compétitions en France et tu termines troisième justement du 5000 sur championnat de France élite. Donc là, on se dit quand même, tu es une athlète identifiée tricolore et un potentiel pour les années à venir, quoi.
Oui, j'avais fait le choix, c'est vrai, de revenir en France. Je voulais rester aux États-Unis. Après, j'avais choisi du coup plutôt de me concentrer sur ma carrière sportive. Donc, je m'étais dit que ça serait plus simple sûrement en France.
Oui, excuse-moi, parce que ça aussi, je l'ai lu. C'est une déclaration que tu avais faite aussi. C'est en gros, à la fin de ton cursus scolaire, tu as eu le choix. Soit c'était les États-Unis, mais la fin du sport de haut niveau. Soit tu te consacrais au sport, mais pour cela, il fallait rentrer en France. C'est ça, Emeline ?
Ouais, voilà, parce que c'est un peu compliqué après, en fait, aux États-Unis de continuer si on n'est pas professionnel et on rejoint pas une équipe pro. C'est vraiment compliqué de continuer à haut niveau. Donc, j'avais fait le choix, c'est vrai, de rentrer en France à ce moment-là.
Et donc, tu reviens en France et puis tu signes donc cette belle performance sur 5000. Quand est-ce que tu te dis, ça y est, je vais sauter le pas, je vais monter sur longue distance et je vais m'attaquer au marathon? Marathon, c'est tout récent, hein, c'était en fin d'année dernière, mais c'est quoi le déclic?
Je sais pas trop. En fait, c'était pas... Enfin, je savais dans ma tête que je voulais faire vraiment... C'est après le semi-marathon que j'avais fait à Nancy, je m'étais dit, au final, j'ai l'impression que plus je monte sur la distance et mieux je me sens. Et même, je le voyais à l'entraînement, plus c'était long et mieux j'étais sur les séances longues. Donc, je m'étais dit, je vais pas m'arrêter à 10 000, je vais continuer à, à monter, quoi.
Pour info, t'as un record sur semi qui est à combien, Emeline?
Oh, c'est pas terrible, c'est une 14 quelque chose.
25.
L'autre, il a l'affiche.
Une 14-25 à Washington.
Oui, ouais. Ah oui, une, ouais, c'est ça. Une 14-25.
Et alors après, on y arrive, donc, cette histoire du marathon en fin d'année dernière à Chicago. Parcours de rêve, un marathon mythique d'ailleurs, hein, l'un des plus grands, plus grands marathons au monde, vraiment une référence, le marathon de Chicago. Tu termines 12e pour ta première sur la distance, hein, 2h32 et 36 secondes, la 19e performance française de tous les temps, à 36 secondes des minima pour un premier essai, et surtout une belle course, Emeline, en négatif split, c'est-à-dire que tu passes le semi en 1:17 et le deuxième en 1:15. Ça, c'est beau quand même.
Ouais, c'est ça. Ouais, bah après, c'était. C'est vrai que j'ai pris énormément de plaisir à courir ce marathon, donc j'ai vraiment, ouais, pour ma première sur la distance, j'ai pris que du plaisir. Enfin, c'était vraiment mon objectif pour moi, c'était vraiment faire mon premier marathon, arriver à la fin et être contente de ce que j'ai fait.
T'avais pas d'objectif de temps dans la tête ?
J'avais pas envie de me mettre la pression sur le chrono, sachant que j'avais eu plusieurs pépins un peu avant et que j'avais pas mon ravitaillement parce qu'au fait j'étais invitée de dernière minute au marathon de Chicago. À la base, je devais pas faire celui de Chicago, je devais faire une semaine avant un marathon, mais j'ai eu le Covid. Ensuite, j'avais eu aussi un problème, j'avais une tendinite au talon d'Achille un mois avant.
Ah, Yodi.
Ah ouais, donc rien, il y a rien qui allait et la perf elle est ouf.
Franchement, ouais, mais non mais je en fait c'est je sais pas, c'est comme si je savais que ça allait, c'était mon jour, donc je m'étais dit enfin je vais pas me mettre la pression de temps et tout, même si je suis pas bien, j'ai envie de profiter et prendre du plaisir sur cette course. Enfin, j'ai pas envie de commencer un marathon et avoir malheureusement un mauvais souvenir ou en souffrir et ne pas vouloir en refaire un.
Johan, pour partir trop vite, c'est fort. Hein.
Pour resituer la perf, là, on est dans le top niveau féminin français. Hein. On est d'accord.
Ben, tu l'as dit, c'est la 20e performance française de l'histoire tout temps. Et sur un one shot, il y a Méline Rollin qui a fait mieux et qui a fait un peu pareil à Valence en Espagne en décembre. Mais c'est monstrueux parce que, comme elle le dit, elle passe une 17, donc elle finit une 15, donc négative split. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah il y a une belle marge de progression avec tout ce qui lui est arrivé avant. Non, il y a franchement, c'est cette nouvelle génération avec Mélodie Julien. Méline et tout ça, plus celles qui vont monter, Margot Sierraki, Laila Hadji, Watt, il y a un renouveau français, et après Begnes qui va monter aussi sur marathon, mais qui est plus âgé. Mais là, je parle de jeunes filles qui ont à peine la vingtaine et qui sont montées sur marathon assez vite. Et il y a un vrai renouveau et un gros potentiel surtout.
Tu nous parles de blessures, qu'est-ce qui t'arrive en ce moment, Emeline?
C'est que j'ai la... Comment ça s'appelle? L'essuie-glace, le syndrome de l'essuie-glace.
Le TFL.
Ah,
ouais, voilà.
Faut changer les chaussures.
Et ça, c'est long. Franchement, je pensais pas. Je pense que c'est la pire blessure que j'ai eue, honnêtement. Parce que.
C'est
ça
rare
prend
chez un athlète de haut niveau, Johan. Enfin, c'est un truc qui...
Non, ça arrive, hein. Ça peut arriver. Mais c'est vrai que maintenant, on la connaît bien, cette pathologie. Donc, généralement, avec des semelles, des soins kinés pour détendre les fascias et tout, ça marche. Mais par contre, il y a un truc qui marche bien, c'est l'opération. Il paraît que maintenant c'est hyper rapide.
Ouais, c'est rien, tu verras. C'est 6 mois d'immobilisation, tu vas voir, ça va bien se passer.
Non,
ça va
c'est
être
hyper
super.
Court. Hein. Franchement, c'est mon kiné qui m'en a parlé l'autre jour, on en discutait de ça. Mais c'est vrai que non, après, c'est une pathologie qui normalement c'est plutôt chez les coureurs débutants qui courent, qui ont les jambes un peu en X.
Ouais, c'est ce que m'a dit mon coach, quoi. C'est le truc des joggers.
C'est le truc des joggers normalement. Ouais. C'est le haut niveau, tu te fais pas attraper par ça. C'est plus le tendon d'Achille, l'excès d'entraînement.
Ouais, mais l'avantage, Emeline, c'est que c'est un problème entre guillemets mécanique. Donc ça se règle. C'est pas un problème tendineux, musculaire ou quelque chose comme ça. Donc finalement.
Ouais, c'est ça.
C'est
et apparemment, c'est parce que je suis vraiment trop de raideur, en fait, d'après mon physio.
Ah. Donc, faut s'étirer.
Ah, ça, un manque de souplesse, ouais.
Ouais. Voilà, je suis rentrée en France et je me suis blessée.
Fallait pas faire autant de natation. En fait, fallait faire de la gymnastique.
Ça, là j'en fais de la natation là.
Et oui, pour te muscler évidemment, tu auras appris la natation. Et puis cette question avant d'accueillir Martin pour parler justement de ce rêve américain et de la façon dont on peut accéder aux États-Unis tout en conservant la passion de son sport. Ton objectif ultime, c'est donc Paris 2024. Tu es toute jeune, mais là c'est un rêve qui est dans ta tête. Avec le chrono que tu nous as sorti en plus à Chicago, là j'imagine que tu penses qu'à ça, quoi.
Ouais, c'est vrai que ça serait vraiment le top de pouvoir faire. Le marathon à Paris en 2024. C'est sûr que c'est le rêve un peu ultime.
C'est quoi les minima chez les dames déjà, Yodu? Je me rappelle plus.
De 26, non, de mémoire.
Tu sais, toi,
ouais,
Amine,
de 20... ouais. Il me semble que c'est de 26 quelque chose. De 26...
Ouais, de 26 quelque chose, ouais.
50,
nous, c'est 50. De 8, 10.
Ah, c'est
mais
corsé
filles,
quand
ouais,
même,
de 26.
Ok.
Ouais, c'est un truc comme ça, ouais.
Et sur la planification de ta saison, là, tu es blessé actuellement, mais est-ce que tu as programmé des marathons? Est-ce que tu sais où tu seras prochainement?
Bah, honnêtement, j'aurais aimé... Là, j'aurais voulu faire Rotterdam ou Londres. Enfin, du coup, cette saison-là... Là, ça va être un peu...
Ça va être un peu court.
Un peu compliqué, donc...
On va finir à Berlin.
Après, peut-être... Ouais, voilà, Berlin oui. Ou Valence.
C'est sûr, parce que Berlin, c'est septembre, et Valence, c'est décembre. Hein. Mais,
ouais, voilà.
Le problème de Valence, c'est que c'est tard, donc il ne faut pas se rater. C'est toujours ça.
Ouais, bah après, ça serait Berlin, dernier, et pourquoi ouais. pas... je sais pas, pourquoi pas les deux. Hein.
2,26,50, hein, les minima chez les dames, donc atteindre, à réaliser pour ce rêve olympique, évidemment sur marathon. Tiens, accueillons un de tes amis, Yodu, il est donc avec moi, il écoute attentivement. C'est donc Martin Casse qui est avec nous, responsable de la section athlée chez Elite Athlète. Salut Martin.
Salut Benoît, salut Yoyo, salut Emeline.
Ah, ça te parle, hein, États-Unis, université, ça rappelle un peu ton parcours à toi, Martin. On précise que tu es un athlète qui a connu l'équipe de France, notamment sur 1500. Tu connais Yodu depuis des années et des années, du coup.
Ah oui.
Ouais, on se connaît. On se connaît très bien, j'ai beaucoup de dossiers.
Depuis 2009 ou 2010, on a fait un stage.
Bon.
Hein
Depuis Forum,
je vais ouais. le brosser dans le sens du poil pour pas qu'il dise
trop de bêtises. Ah, t'as peur, hein. Je le disais, donc toi aussi, tu étais un passionné d'athlée, très bon sur 1500, et puis tu as eu, toi aussi, cette chance, enfin, c'est toi qui l'as provoqué, d'aller étudier aux États-Unis, puisque tu as fait 4 ans d'études à l'Université Texas Rio Grande, c'était à Édimbourg, c'est ça, au Texas?
Ouais, Edinburgh au Texas, voilà. pas en Texas.
Et un souvenir qui a marqué ta vie à jamais, quoi. Tu t'es dit, c'est formidable et c'est une opportunité à ne pas manquer, quoi.
Ouais, c'est clair, j'ai toujours dit, ça a changé ma vie, je regrette en rien d'avoir voilà, tenté l'aventure aux US, et je suis hyper reconnaissant d'avoir eu un coach, une team qui me donne une bourse pour pouvoir étudier aux US, parce que sans ça aurait jamais été possible.
Qu'est-ce qui t'a poussé à l'époque à faire cette démarche, justement? Comment tu t'y es pris? Déjà, est-ce que t'as monté toi aussi comme Emeline, finalement, ton projet un peu tout seul? Est-ce que t'as démarché toi-même? C'est comme ça que c'est passé?
Je suis aussi passé par une agence.
Ouais.
Du coup, moi, j'ai commencé l'athlée tard, 16 ans, en classe de première. Je venais du foot.
Ah ouais.
Et première année, j'ai direct des résultats. Je faisais du 800, je vais au championnat de France, je vais au championnat de France de cross.
Okay.
Et ça me donne hyper envie. Et puis, je reçois un courrier un jour comme quoi, avec mes performances, je pourrais prétendre à une bourse d'études aux États-Unis. Et étant un peu aventurier, je me suis dit pourquoi pas. Et donc voilà, j'ai fait confiance à une agence et je suis parti comme ça.
T'as choisi la région ou on te l'a imposé? Le Texas, c'était un choix? Comment ça s'est passé?
Ça a été un choix. J'avais 2-3 opportunités et le sud du Texas s'est porté sur le fait que c'était hyper hispanique, donc je pouvais pratiquer l'anglais et l'espagnol à la fois, qu'il y avait du soleil toute l'année. Et que voilà, c'était en division 1, j'avais une bourse complète, la team était super, donc voilà, je suis parti à l'aventure chez les Cowboys.
Et après, il y a une belle expérience pour toi, tu fais 4e sur
1500. Il aime les armes à feu.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est vrai que le Texas, c'est reconnu pour ça. 4e au 1500 au jeu de la francophonie en 2017, donc c'est quand même, t'as porté le maillot équipe de France, c'est quand même quelque chose. Les universiades aussi d'été, c'est ça, je vois, mm-hmm. Et puis les Europes de cross-country, en relais mixte.
Ouais, donc moi je suis parti aux États-Unis en 2011, hein. Je suis resté de 2011 à 2014 et ouais. Ça, mes premières sélections en équipe de France, ça a été en 2017. Donc quand je suis parti aux États-Unis, j'avais pas ce niveau équipe de France, j'avais un niveau finaliste championnat de France jeune et donc les US ont largement contribué à cette petite progression, quoi. Et puis voilà, en 2017, à 27 ans, du coup, je fais ma première sélec pour les Jeux de la Franco et puis une sélec en appelle une autre. Et donc sur 2 ans, je fais 4 sélections et c'était incroyable parce que c'était un rêve. Et en partant aux US, c'était dans un coin de la tête, pourquoi pas porter le maillot de l'équipe de France un jour, mais c'était aussi et avant tout pour l'aventure, le diplôme et la maîtrise de l'anglais.
Et l'expérience de vie,
l'expérience.
Avoir la chance d'étudier aux États-Unis. Justement, profitons de votre expérience à tous les deux, parce que Emeline et Martin, vous vous êtes formés là-bas. Quelles sont les différences fondamentales entre les États-Unis et la France? Déjà, est-ce que le rapport au sport est complètement différent? On a cette image d'un pays qui est vachement tourné vers le sport, les États-Unis, c'est moins le cas en France. Vous l'avez ressenti tout de suite quand vous êtes arrivé? Toi, Emeline, tu l'as ressenti tout de suite?
Ah ouais, moi, déjà, quand on arrive et que Enfin, quand on voit toutes les teams de sport et tout l'engouement qu'il y a autour, même les profs, comment ils sont par rapport, bah, si tu es athlète ou pas, c'est énorme. Et enfin, ouais, même les, tout ce qui est match, tout ça, c'est vraiment, c'est impressionnant.
Suite, ouais, tout de suite, tu as cette culture sportive, tu t'en imprègnes en fait, Martin, c'est ça?
Ouais, c'est ça, quand tu le vois, t'arrives à l'université, on te dit ah mais t'es dans l'équipe d'athlée, ou bah c'est encore plus classe quand t'es dans l'équipe de foot, faut pas se mentir,
ouais.
Ou de basket, mais un peu le physique pour, voilà. Mais en tout cas, je veux dire, tu parles à un prof, tu vois, tu vas te présenter, je me rappelle, c'est qu'au début, on te donne une feuille d'absence excusée, tu vois, tu vas voir les profs et tu
ça,
dis voilà, dingue. Ce semestre, je suis
pourquoi
pas là,
pas chez nous,
et on va t'aider à rattraper les cours, etc., on fait tout pour te mettre dans les meilleures conditions pour réussir scolairement. Et tu vois, les profs, ils engagent facilement la conversation, vont te demander « Ah ouais, mais tu fais le mile, c'est quoi ta référence sur mile ?» Parce qu'au lycée, tout le monde a couru le mile, tout le monde a fait du sport à l'école. Et en fait, effectivement, il y a cet engouement. Et voilà, dans certains sports, beaucoup plus que d'autres, hein, les sports rois, c'est le foot US, le basket et le baseball. Mais même l'athlée, ça reste un sport qui est beaucoup plus populaire qu'en France.
Est-ce que la plus grande différence, Emeline et Martin, elle se situe au niveau des structures? Des structures sportives, justement, sur vos universités. Est-ce que tu as été impressionné, toi, Emeline, quand tu es arrivée comme ça en Californie, sur toutes les structures qu'il y avait au niveau de l'athlée?
Ouais, après, nous, on n'avait pas à CBU, encore moi, à l'époque où j'étais, on n'avait pas de piste d'athlétisme. Mais c'est même, enfin, au final, ça, c'était pas important parce que tout ce qui était autour, le gymnase, enfin, la salle de sport, toutes les infrastructures, même quand je suis passée à Boston et que j'ai vu tout ce qu'ils avaient, j'ai dit, mais waouh, c'est impressionnant, quoi. Tout ce qu'ils mettent pour le sport.
Martin, ouais, c'est pareil, toi, quand t'es arrivé là-bas, au Texas, c'était fou.
Ouais, c'était fou. Alors moi, j'avais une piste qui était vieillissante depuis, ils l'ont refaite, mais pareil, c'est pas grave, ça permet, on avait largement de quoi très bien s'entraîner. Et j'ai été choqué parce que au Texas, tous mes potes venaient du Texas, et dans chaque ville, voilà, tous les 2 miles, il y a une piste d'athlétisme en tartan. Et donc vois, quand tu vas chez un copain pour Thanksgiving,
viens sur ma piste.
Tu trouves une piste pour faire des séances un peu partout, quoi. Et
génial.
Donc quand tu vois à Toulouse que on n'a pas une salle d'athlétisme à moins de 2 heures et des pistes d'athlètes, il y en a, mais il n'y en a quand même pas des masses. Donc,
imagine à Bergerac.
Donc c'est vrai,
on en a une après 50 ans de bagarre.
Ça y est, voilà. Mais le projet est fou. Alors il y a une autre chose qui se développe beaucoup aux États-Unis, c'est ce sentiment d'appartenance. Quand tu es sur université, tu es fier de porter les couleurs de ta fac, de ton université. Vous l'avez ressenti ça aussi? Je sais pas, est-ce qu'il y avait les manteaux, les tenues, les trucs, tout ce qu'on voit, ça existe aussi partout. Ouais.
Ah bah ouais, c'est la folie, quoi. Déjà, on te dote d'équipements pour représenter l'université, et puis t'as le bookstore avec tous les t-shirts et tout, et donc tu peux facilement acheter un t-shirt, une casquette, et puis c'est à vie en fait que tu restes membre de ton université. Et donc par exemple au Texas, t'as Texas A&M contre UT, les Longhorns de University of Texas, et tous même les papis, ils ont la casquette de UT ou Texas A&M, ils ont le logo à l'arrière du truck, et ils représentent à vie leur université. Il y a un très fort sentiment d'appartenance.
Parlons compétition, Emeline, les compètes universitaires, est-ce que là aussi on est dans un autre monde? Est-ce que c'est l'image que l'on s'en fait ici? Est-ce que les tribunes sont blindées? Est-ce qu'il y a une ambiance surréaliste? Comment ça s'est passé pour toi, Emeline, les courses universitaires?
Ah ouais, c'est énorme, c'est la densité et le niveau qu'il y a. Ouais. Là, même à Boston, quand j'ai fait ma saison indoor à Boston, j'ai pas ma place dans la série 1, quoi. Enfin, il y a je sais pas combien de filles qui courent en moins de 15-30, autour de 15-30, 15-40, 105 000. Enfin, surtout en division 1, le niveau, il est incroyable. Et c'est la densité.
Ouais.
C'est énormément de densité. Puis c'est vrai qu'il y a tout le temps du public pour encourager, quoi. Les stades et les pistes sont pleines.
Comment on est considéré, Martin, quand on est athlète européen et qu'on intègre une université américaine? Est-ce qu'on est pointé du doigt? Est-ce qu'on est considéré comme un membre de l'université quoi qu'il arrive? Est-ce qu'il y a une différence?
Non, je pense qu'on est assez mis en valeur. De toute façon, voilà, on est même respecté parce qu'on vient de loin pour représenter l'université.
Ouais.
Et j'ai même des potes qui me disaient, mais qu'est-ce que t'es venu foutre au sud du Texas? Et je disais, bah moi je suis fier d'être là, les gars, et tout, et c'est trop cool. Et ils disaient, non, mais franchement, respect. Et ils apprécient justement qu'on vienne à la découverte de cette culture. Les Ricains, enfin en tout cas moi, là où j'étais, ils étaient peut-être moins prêts à partir à l'aventure aussi loin, parce que même eux déjà, il y avait le North Dakota ou d'autres États qui étaient déjà assez loin avant qu'ils s'aventurent à aller en Europe dans des cultures qu'ils connaissent pas du tout et des pays avec des langues qu'ils ne connaissent pas non plus.
Parlons de.
Et est-ce que t'as bien été accueilli par les Américaines, Martin ? C'est ça aussi.
Ah, bonne question.
On a dit qu'on pouvait pas tout dire.
Commence pas sur les dossiers. Parce que tu vas tomber, mon vieux, je te le dis, c'est un conseil que je te donne, Yodu.
Et moi j'étais très sage.
Voilà, bonne réponse.
Le petit français, the French kiss.
Voilà, peut-être. Autre question importante. Donc, toi, après, tu rentres, Martin, tu poursuis ta carrière professionnelle aussi. Tu décides de fonder USA Project parce que tu es marqué par ton histoire personnelle et tu te dis, moi aussi, j'ai envie d'aider et de proposer à des jeunes Français qui rêvent de mener à la fois un parcours scolaire et sportif aux États-Unis, de les aider dans les démarches. C'est comme ça que te vient l'idée et que tu montes cette entreprise ?
Ben c'est ça en fait. Alors ça a été un moyen de effectivement faire quelque chose qui me plaisait. Comme je disais tout à l'heure que j'ai vécu la meilleure expérience de ma vie, pourquoi pas le faire partager aux autres. Parce qu'en plus en France, ben effectivement, Emeline en a parlé tout à l'heure, elle était passée par une autre agence. Il y avait d'autres agences qui le faisaient, mais il y avait jamais un vrai référent athlétisme. Et donc je me suis dit bon ben je pense qu'il y a une place à prendre. Et puis c'était 2017, j'avais intégré une école de commerce, j'ai fait l'EM Lyon en master. Là j'étais aux portes de l'équipe de France. J'avais des opportunités dans des grosses boîtes et je me dis, mais je pense que je ne vais pas pouvoir aller chercher l'équipe de France et finir un peu ce que j'ai commencé en athlé si je bosse dans une grosse boîte. Et donc, c'est là où j'ai lancé un peu ce projet. Et puis, je n'ai pas fait que ça, USA Project. J'ai monté des camps aussi dans le sud de la France, entre Font-Romeu et Toulouse pour des Américains. Et donc, deux activités ont commencé à prendre. Et puis, je me suis très vite pris au jeu et donc j'ai mis aussi fin à ma petite carrière d'athlète et pour me dédier complètement à cette passerelle entre la France et les US pour les étudiants sportifs.
Alors, rentrons dans le concret, parce qu'aujourd'hui, tu as rejoint l'agence Elite Athlète. Donc, toi, tu gères la section athlée. Donc, tu aides les jeunes Français qui rêvent des États-Unis à poursuivre leur but et aller à trouver une université. Comment ça se passe déjà ? Est-ce que tu acceptes tout le monde ? Et est-ce que c'est des demandes qui te parviennent des États-Unis ? Ou est-ce que c'est le Français qui est demandeur et que toi, tu vas vendre de l'autre côté de l'Atlantique ?
Oui, donc c'est ça. Je suis directeur du département athlétisme de l'agence Elite Athlète. Donc juste pour faire le lien, hein, donc j'avais mon agence et en fait on a fusionné avec Elite Athlète en 2020.
Eux qui étaient plutôt spécialisés sur le foot.
Voilà, qui avaient monté FFF USA. On est partenaire de la FFF sur le placement d'athlètes aux États-Unis et on a la double casquette agent pro et donc et placement d'athlètes. Donc on a décidé de faire pareil sur l'athlète. En gros, ce que j'avais plutôt bien commencé et on a d'autres départements aujourd'hui, notamment le tennis, etc. Donc sur ma partie quand même l'athlétisme, aujourd'hui on a une soixantaine d'athlètes qui partent aux États-Unis, l'engouement est de plus en plus fort. On ne peut pas prendre tout le monde, j'ai dit souvent je suis obligé de refuser, mais bon on accorde quand même de l'importance à des jeunes qui auraient un niveau régional, et s'ils peuvent pas partir tout de suite on leur dit tu vois il faut encore que tu t'entraînes dur et que tu puisses avoir les performances requises pour partir. C'est délicat parce qu'en demi-fond féminin par exemple il y a énormément de place, en sprint masculin c'est beaucoup plus compliqué. Donc on est obligé pour placer même dans des petites universités dans le sprint masculin d'avoir des mecs qui courent à 10,50, 10,60 le 100 mètres.
C'est quoi la catégorie d'âge ?
La catégorie d'âge, on va dire plus on part tôt, mieux c'est. Si on va avoir plus de temps pour partir aux États-Unis, comme Emeline qui est partie direct après le bac, mais on a aussi beaucoup d'étudiants qui partent après une licence et là on les aide à trouver des masters. Après plus on est âgé, plus ça devient compliqué, notamment pour aller en division 1 NCAA.
On parle athlétisme, ça concerne toutes les disciplines de l'athlé ou c'est que le demi-fond, que le sprint, que la course en fait ?
Non, alors forcément, depuis le début, on est quand même mieux représenté en demi-fond parce que je pense que c'était ma discipline. Mais aujourd'hui, j'ai 4 référents avec moi et donc on a de plus en plus de sprinteurs, sauteurs, lanceurs. Donc on peut partir dans toutes les disciplines. Il y a des opportunités de bourse dans n'importe quelle discipline. Comme je disais, après, c'est sûr qu'il y en a où il y a plus de place que d'autres. On est fort en France sur le triple saut, les haies, la perche, le sprint, c'est pas qu'on n'est pas bon, mais c'est qu'aujourd'hui aux États-Unis, des sprinteurs, il y en a à l'appel, et donc c'est beaucoup plus dur d'aller chercher des financements élevés dans les universités.
Emeline, toi t'es un exemple concret, donc on l'a dit, tu as fait ton cursus aux États-Unis, ça t'a permis de te convaincre, tu avais un truc à faire au haut niveau. Est-ce qu'il y a quand même des bémols dans une expérience américaine, Emeline, à ton avis, ou est-ce que t'en vois pas ?
Honnêtement, il y a vraiment plus de bien que de mal. Après, je dirais peut-être que c'est pas quelquefois individualisé ni. Moi, en prenant mon exemple, qui connaissait vraiment rien, vraiment la course à pied, deux, trois fois par semaine que je faisais, c'était vraiment rien de très sérieux. J'arrive là-bas, mais personne vraiment me montre, par exemple, comment on s'étire correctement, comment on utilise un foam roll. Enfin, en fait, je pense que c'est pas vraiment individualisé. Donc après, c'est à soi-même de savoir se prendre en charge. Sinon, ça peut venir un peu compliqué, quoi. Ou alors, sinon, si on a déjà des habitudes en France où on a un certain confort avec nos kinés et tout ça, et qu'on passe et qu'on on attend un peu quelquefois peut-être beaucoup de là-bas, c'est sûr qu'il y a pas des. Certes, moi, en tout cas, j'étais très contente parce que il y avait des kinés. Après, à mon avis, ceux de l'université ne sont pas toujours très, comment dire, en tout cas, très bons.
Ouais, d'accord, très spécialisé. Quoi. Okay.
Voilà. C'est pas un truc. Tu m'aidais pas trop, quoi.
C'est pas un truc pour Durand qui, lui, a ses trois kinés, sa nutritionniste, son machin, son
qui
coiffeur.
Qui est tout le temps blessé, oui.
Qui est tout le temps blessé.
Non, mais après tout ça, je pense aussi, ça dépend des universités.
Oui,
moi, j'étais dans une division 2 au départ, et donc c'est vrai qu'il n'y a pas non plus. Tout, mais quand je suis passée à Boston, on avait un nutritionniste, un psychologue si on voulait, un coach mental, enfin, c'était quand même un peu plus suivi.
C'est aussi ça ton rôle, Martin, c'est que certes, tu envoies des jeunes adultes aux États-Unis, mais tu les accompagnes aussi, tu les aides dans les démarches administratives parce que c'est quelque chose d'assez compliqué, mais tu gardes un vrai suivi des athlètes, quoi. Tu les laisses pas comme ça tout seul dans la nature. Une fois que tu les as envoyés.
Ben c'est ça, c'est qu'on n'est pas une plateforme, on est une agence de conseils. Et donc après le départ, il y a un suivi. Mais déjà avant le départ, il y a beaucoup d'échanges. Mmh. On fait des appels avec. Moi, je fais des appels avec mes athlètes en demi-fond et des coachs. Et je les aide à y voir plus clair. Et forcément, après, s'ils ont des super perfs sportives et un super dossier scolaire, un bon niveau d'anglais, on peut ratisser hyper large. Ils peuvent avoir leurs exigences en termes de localisation, de division, de tout. Et puis d'autres ont dit bon ben là voilà c'est il y a pas il va pas y avoir une tonne d'offres donc
ouais,
va
prendre le début
forcing, ouais. Mais on essaie d'être le plus franc possible sur les avantages et les inconvénients d'un tel parcours. On essaie vraiment de personnaliser parce qu'il y en a qui viennent nous voir en disant ben moi je vais aller aux Jeux Olympiques, il y en a d'autres où c'est vraiment je veux faire un master en biologie marine ou en ingénierie aérospatiale et peu importe la team et donc on est aussi des conseillers sur le plan académique, donc on essaye de répondre à toutes les demandes au mieux.
Bon, la question qui fâche évidemment, combien ça coûte?
Bah, le placement donc, coûte 3000 euros. Mm-hmm. Moi, c'est ce que j'ai payé pour partir. Je ne sais pas, Emeline, si c'était dans ces environs. Mais ça fait des années, en tout cas, que le prix n'a pas augmenté. Et pourtant, on a de plus en plus de réseaux. Je me déplace régulièrement aux États-Unis pour rencontrer les coachs. Et tout à l'heure, tu demandais en fait, comment ça se passait. Mais c'est qu'aujourd'hui, j'ai aussi des coachs qui m'écrivent parce qu'ils ont des besoins
des
pour renforcer leur équipe.
Mmh.
Et puis, on a la chance aujourd'hui de... Je pense qu'on a une bonne visibilité sur les réseaux. On communique beaucoup sur les athlètes qu'on a aux États-Unis et on reçoit beaucoup de demandes. Mmh. Et donc, on essaye de matcher un peu la demande des athlètes en France et celle des coachs aux États-Unis en apportant un vrai conseil, quoi.
Est-ce que tu peux nous rappeler ton site, comme ça, ceux qui sont intéressés, pourquoi pas, dans leur entourage, quelqu'un qui aimerait vivre ce rêve
pour ouais, ton... et ben www.eliteathlete.fr.
Voilà, tout simplement.
Et vous aurez... sur les réseaux, voilà, Elite Athlete Track and Field, parce qu'on a des comptes spécialisés par sport.
Emeline, Martin, vous restez là, on passe à la séance.
RMC.
La séance.
Alors, séance qui n'a rien à voir, mais c'est la période, Maître Yodu. Les vacances scolaires de février, et voilà, on y est en plein dedans. Et pour les plus chanceux, c'est souvent synonyme de séjour dans une station de sport d'hiver, donc l'altitude, le froid, le dénivelé. Pas le meilleur plan pour continuer une prépa de course à pied. Alors, on va faire deux cas de figure, Johan. Ceux qui sont en prépa de quelque chose et ceux qui ne sont pas en prépa. Déjà, tout simplement...
Là, t'es en train de me demander si t'as le droit d'aller au ski, c'est ça?
Un peu. Moi qui prépare le marathon de Barcelone. Non, mais déjà, question simple. Est-ce que hors prépa spécifique, tu conseilles à une personne, à un coureur amateur, de couper totalement la course lorsqu'il va au ski, quoi, tout simplement?
Ah, complètement, ouais. Complètement, ouais. S'il n'a pas d'objectif à court ou moyen terme, cette semaine de vacances au ski, c'est des vacances. Donc, s'il n'a pas l'objectif de courir et de se dire « faut que je sois prêt dans un ou deux ou 3 mois pour une compète. Ouais, non, faut qu'il court. C'est des vacances, faut profiter de sa famille, faut profiter des proches, faut profiter de manger de la raclette, et puis surtout, faut profiter des conditions de la montagne, de skier, de faire de la raquette, de faire du ski de fond, de faire ce qu'il veut, mais de laisser un peu la course à pied de côté pour les vacances, quoi. Après, à contrario, si on a des objectifs, là, c'est un peu plus compliqué.
Oui, ouais. Mais quand on n'aime pas sa famille. Non, je plaisante. est-ce qu'il y a un apport du ski dans la course à pied? Est-ce que ça te renforce musculairement? Est-ce que ça peut te servir quand même lorsque tu redescends?
Bah ouais, le ski, alors il y a plusieurs types de ski, hein. Le ski alpin ou le snow, enfin le ski de descente en général, ouais, ça c'est bien pour muscler le bas du corps, hein. On l'a tous ressenti à la fin d'une journée de ski, alors ne serait-ce que porter les chaussures toute la journée, vous avez l'impression que de plus avoir de jambes, bah, vous avez les quadris fusillés, les ischios, vous êtes vachement sur les ischios, vous avez les fessiers un peu chargés, vous avez toute la ceinture abdominale qui va travailler pendant que vous faites du ski de descente, parce que voilà, il y a toujours cette histoire de maintien entre les abdominaux, le dos et cette façon de se gainer un petit peu naturellement. L'autre point positif du ski, ça peut être toute la notion d'équilibre, hein, de coordination et tout ça qu'on peut retrouver chez le coureur. Et après, en ski de fond, à l'inverse, bah là, on va se rapprocher un peu du travail qu'on fait en course à pied, à savoir un gros travail cardio, un gros travail d'endurance. Ouais. On le voit, on avait eu l'exemple avec Xavier Thévenard, le trailer, qui nous avait expliqué que toute la saison d'hiver, ils font quoi les mecs? Ils font du ski alpinisme. Des choses comme ça. Donc là-dessus, voilà, le cardio va travailler. Et puis c'est un sport qui est moins traumatisant que la course, puisqu'il n'y a pas d'impact. Mais malgré tout, voilà, ça va solliciter toute la chaîne musculaire, quadris, ischio, fessiers, bon. Et un peu les adducteurs pour le ski. Ouais.
On parle souvent de bénéfices de l'altitude. Est-ce qu'en une semaine, on a des bénéfices, ou est-ce que finalement c'est trop court pour
Aucun. Non. Une semaine, c'est pas assez pour pouvoir faire des globules et tout ça, donc c'est pas l'altitude qui va vous permettre de revenir plus fort. Au contraire, si vous courez pendant que vous êtes en altitude, ça va être plus difficile la première semaine. Ouais.
Comment on fonctionne si on est en prépa spécifique, Johan, que ce soit semi, 10 ou marathon, est-ce qu'on adapte sa semaine, comment est-ce qu'on court déjà, parce que ça monte et ça descend et il fait froid.
Ouais, bah alors voilà, la difficulté c'est ça, c'est de trouver des conditions d'entraînement totalement différentes. Avec si on a l'habitude de courir sur la route, bah les routes elles peuvent être verglacées, les chemins ils peuvent être enneigés et tout ça, donc faut quand même essayer de trouver un endroit où courir, peut-être descendre un peu plus bas que la station et redescendre dans la vallée. Les choses comme ça. Et après, il y a tout le volet météo aussi, on ne se rend pas compte, mais l'altitude plus la météo avec des températures à moins 5, moins 10 degrés, elles vont clairement avoir un impact sur la performance. Donc si je dois courir, bah, pendant ma semaine de vacances, j'essaye d'y aller 2-3 fois par semaine. Et dans ce cas-là, j'essaye quand même de privilégier plutôt du footing pour récupérer de sa journée ou de sa demi-journée de ski, des footings un peu en aisance respiratoire, avec derrière, pourquoi pas, du travail de gamme, du travail de technique course pour un peu délier la foulée, travailler le travail du pied, parce que voilà, toute la journée à faire du ski, à avoir les jambes un peu chargées, bah, si vous courez, voilà, ne cherchez pas à mettre de la cadence, ne cherchez pas à aller trop vite. Vous êtes en altitude, ça va être difficile, la météo est moyenne,
pas de fractionner,
ça glisse, les choses comme ça, et on évite le fractionner. Si on doit fractionner, faites plutôt du fractionné court, des lignes droites, des choses comme ça, pour, je le disais, délier la foulée, ou alors du footing tempo pour asmater un peu, mais on évite quand même le fractionné. Ouais.
Et ceux qui auraient la chance de trouver un tapis, là c'est pareil, c'est que du footing d'entretien a priori?
Ouais, disons que l'altitude c'est difficile, hein. Si on est au-delà de 1600-1700 mètres d'altitude, on se retrouve quand même en moyenne altitude, voire haute altitude. Et dans ce cas-là, le travail de fractionner est beaucoup plus difficile. Donc la première semaine, nous, on fait toujours des semaines d'acclimatation pour acclimater son corps. Là, en une semaine de vacances, on n'a pas le temps. Donc privilégiez quand même les trucs faciles. Si vous courez dehors, bah, déjà, il faut être bien équipé, hein, les chaussures, la frontale, les gants, le bonnet, le coupe-vent qui va bien pour vraiment pas tomber malade. Et puis sinon, il faut rester dans la facilité. Et c'est des vacances au ski. Donc je pense qu'il faut peut-être charger l'entraînement avant. Après, au retour, on fait 2-3 jours un petit peu cool quand même pour bien récupérer du séjour. Et après, je repars sur un gros cycle d'entraînement. Mais il faut profiter de ça pour profiter de ses vacances aussi et profiter de sa famille, quoi.
Le vin chaud est autorisé?
Le vin chaud est autorisé, la raclette aussi, voilà, tout ce qui va bien. Alors attention, bien sûr, quand on dit ski, surtout le truc le plus dangereux, bah, c'est la descente et la chute. Hein.
Ah bah oui.
Les entorses de genoux, ça, je ne sais pas combien il y en a eu, mais bon. On connaît tous un mec qui est revenu du ski avec soit la clavicule ou le genou dans la boîte à gants, donc c'est quand même assez risqué. Hein.
Émilie, il fait froid en Caroline du Nord en ce moment ?
Ouais. Ouais. Bah pour moi il fait froid hein. Ouais, il fait enfin le matin il gèle un peu puis après c'est pas ça reste pas enfin constant. C'est par exemple là aujourd'hui il va faire que 6 degrés mais dans 3-4 jours il fait 17.
Ah bah ça va. Ah, t'as des variations.
Ah ouais,
c'est heureusement.
Des variations. Donc, ouais non, c'est vraiment des grosses variations même c'est vrai que l'été ça passe du tout au tout quelquefois.
Bon, Martin, il fait froid à Toulouse ?
Et bah là, en ce moment, il faut aussi froid qu'à Paris, je suis dégoûté.
Ah ouais, bah, ça pique. Hein. Ça pique partout en France, là, c'est comme ça. T'imagines à Bergerac, le gars, il court sur des chemins enneigés, carrément. Enfin, bref. Allez, tout de suite, on passe au bon plan Dossard.
RMC, le bon plan Dossard.
Avec un haut lieu de la course à pied française dans RMC Running cette semaine, la ville de Houille, connue pour son plateau élite sur 10 km à chaque fin d'année. Une autre course de la ville, le Tour de Houille, l'une des plus anciennes courses de France. Ce sera la 79e édition le 26 mars prochain. Et on va en parler avec Marc Pereira, qui est membre du bureau de la section athlée et du comité d'organisation de cette course. Bonjour Marc.
Ouais, ben bonjour à tous.
Bienvenue Marc, on est ravis de vous accueillir. Oui, c'est très connu, enfin, ça parle aux coureurs en tout cas, ce 10 km performance parle à tout le monde. Et d'ailleurs cette année, vous allez recevoir les championnats de France du 10 km, c'est ce même week-end. Hein.
Exactement, là c'est jackpot, c'est une première pour Houille, c'est même une première en Ile-de-France. Hein. On est effectivement support des championnats de France de 10 km sur route cette année, donc ça aura lieu le 26 mars à Houille. Bon, ça fait un peu moins avec la Caroline du Nord hein, quand on parle de Houille, c'est quand même sympa, on est dans les Yvelines, on est bien desservi par le RER A, la ligne J, la ligne L, pour ceux qui veulent venir courir.
Est-ce que vous avez élagué les arbres sur le départ ? Comment ça va se passer ?
On a fait mieux que ça, on a modifié. Alors, ouais. Je vois à quoi tu fais allusion par rapport aux arbres et le départ un peu chaotique de la Corrida. Ouais. On a revu le parcours. On a notamment au niveau du départ, dont tu parlais, rapport aux arbres, on l'a complètement déplacé. Là, on est sur une zone qui fait 8 mètres de large sur 400 mètres de long. Donc là, il y a vraiment de quoi s'élancer, bon. Avec un léger faux plat montant quand même, histoire de. Mais au global, on est sur un parcours qui est très roulant, hein, comme à chaque fois.
Sur une seule boucle ?
Non, on a deux boucles de 3,8, deux boucles de 3,8 km, avec une petite difficulté que les connaisseurs de Houille apprécient en général, c'est la montée devant l'église. Ça fait un dénivelé de 38 mètres en global, on va arriver quand même.
Oh, ça va.
On va quand même relativiser tout ça, ça devrait se gérer. Et après, on a sur la fin du parcours, on est sur un plat descendant, donc c'est ce qui fait que le parcours est plutôt propice au beau chrono. Et,
Marc, ouais. Comment va s'organiser le week-end ? Vous faites la course élite d'abord et ensuite il y a la course open où là on peut se faire plaisir, aller chercher un chrono ou faire ça déguisé en Yoann Durand ? Comment ça se passe ?
Alors je sais pas s'il y en a qui vont oser se déguiser en Yoann Durand parce que bon, ça met une petite pression quand même. Hein, mais en fait, il y a pour être précis sur le déroulé, il y a 4 courses de prévues. On démarre à 9h. Hein, d'ailleurs, petite info, le 26 mars, on changera d'heure dans la nuit du 26 mars.
En plus,
en plus. Donc là, c'est déjà quoi ? Vous perdez une heure de sommeil. Hein,
d'accord. Heures,
donc, allez.
donc il y a 4 courses. La première est à 9h. C'est le championnat de France 10 km cadet junior et les catégories hommes de M1 à M9. Mm-hmm. Ensuite, on enchaîne à 10h30 avec championnat de France de cadets à M10 femmes. Et c'est ça qui est sympa, c'est qu'il y a les Open femmes qui prennent le départ juste derrière les meilleurs athlètes. Donc, c'est la même course. Ils sont juste en deçà de derrière. On a le même schéma à 12h pour les championnats de France de 10 km, espoir, senior, M0 hommes et les Open hommes qui sont pareils juste derrière les meilleurs athlètes. Et, qui s'élance juste après eux. Et on termine, pour qu'il y en ait pour tout le monde et que ce soit un événement plutôt festif, pour une course des collèges qui fait 2,4 km. Okay. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Donc 13h30, course des collèges. Et l'idée c'est que voilà, les plus jeunes participent à la fête également et que tout le monde se retrouve au niveau de la zone d'arrivée où il y a un village qui est prévu avec des animations, des concerts, des trucs, des poissons, bref, tout ce qu'il faut pour passer un bon moment en famille. Journée sympa.
Et ben pour détecter la future Emeline de la Nice, voilà, c'est la course des collèges, voilà.
Non, mais j'y pense.
Oui, pourquoi pas. Ah, tu y penses au 10K, Emeline ?
Ouais, j'étais en train de regarder la date.
Ah bah c'est très simple. La date c'est le 26 mars. C'est une semaine avant le marathon de Paris. D'ailleurs, Johan, question technique, mais c'est bien pour un rappel d'allure. Si tu prépares le marathon, tu peux faire un 10K la semaine d'avant, non ?
Non.
Ah d'accord, pardon.
Il dit ça parce qu'il veut pas venir, Johan. Comme il fait le marathon juste après.
Non, ouais, une semaine avant, moi je fais du jus, ouais, j'ai besoin de me reposer.
On t'avait prévu une chocolatine.
Non, surtout pas, arrêtez avec ça.
Sébastien s'y est engagé, hein. Il m'a dit si Johan vient, il y a chocolatine pour lui.
Non, on refuse.
Ils vont m'avoir par les sentiments.
Ça n'existe pas.
Bah écoute.
Non, mais Emeline, écoute, est-ce que vous accueillez Emeline avec plaisir si elle est portée par la course.
Avec plaisir. Je viendrai même la chercher au RER.
Ça c'est beau.
Mais je suis pas blessée.
Avec plaisir, pourquoi pas. Super. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, Marc. Je précise que vous faites gagner 5 dossards, donc le tour de Houille le 26 mars. Pour gagner, c'est très simple. Vous nous laissez donc votre mail en commentaire et puis vous nous indiquez, parce que c'est le petit test d'écoute, votre record sur 10 km. Comme ça, on saura à peu près sur quoi vous partez. Et puis votre meilleur temps passé. Merci Marc, à bientôt.
Merci à vous, au plaisir, à bientôt.
Bonne journée. Je remercie Martin également qui était avec nous, donc Martin de Elite Athlète, spécialiste de l'athlète. Faites-vous plaisir, hein, vraiment, c'est un beau challenge dans votre vie. Si jamais vous avez un ado qui est passionné d'athlète, contactez Marc, ça peut être une très belle histoire. Voilà, il vient d'avoir son bac, il a eu une mention, voilà, un petit plaisir, pourquoi pas. Ça peut être pas mal. Oui Marc.
Et j'avais une question justement pour faire la transition, pour clôturer. Emeline, je voulais savoir jusqu'à quand tu es en Caroline du Nord ?
Comme je pars que avec des estas, les visas touristes, je reste que 3 mois. Puis malheureusement, tant que j'ai pas de visa, c'est comme ça.
On te traite comme une touriste, quoi. Donc d'accord. Tu vas rentrer quand en France alors ?
Mi-mars. Okay. Mais 15 mars, ça me semble.
D'accord. Je te demandais parce que justement, on fait notre premier camp aux US et justement à Asheville, en Caroline du Nord. Donc, 900 mètres d'altitude. Cool. Un premier camp aux US encadré par un coach de Division 1 NCAA. C'est du 21 avril au 1er mai. Et donc, si tu étais dans le coin, Emeline, forcément, tu aurais été bienvenue pour témoigner de ton expérience.
Si je suis là, ouais, avec grand plaisir.
Et sur la partie visa, faut qu'on s'appelle parce qu'il y a des communes pour avoir des petits visas et rester plus pérennement aux US. Ouais.
Dis-moi, Emeline, t'es contente d'être venue, t'as gagné un dossard et un moyen de rester aux États-Unis plus longtemps.
Ouais, j'en ai de la chance.
On est marié avec un Américain. C'est ça son dossard.
Écoute, en tout cas, c'était un plaisir de vous accueillir tous les deux. Merci Martin d'être venu. Merci à toi, Emeline. On espère que cette blessure sera rapidement derrière toi. Sinon, il y a l'opération. Hein. C'est 6 mois d'immobilisation, mais après, tout va bien. Tu verras, donc tu peux y aller.
Conseil
du maître Yodu. Merci à tous les deux. Pour terminer, on a cette tradition. Emeline, on t'a demandé ce que tu écoutais quand tu cours. Tu nous as dit Dennis Lloyd, Unfaithful. Voilà, ça donne ça.
Là on est en Caroline.
Et toi, contrairement à tous les autres athlètes de haut niveau, tu écoutes beaucoup de musique quand tu cours, Emeline, hein ?
J'en écoute pas trop, non.
Je jette mon crayon à Geoffrey Charpie, notre producteur, qui me dit, non. Tu vas voir, elle écoute plein de musique quand elle court.
Non, j'aime bien écouter de la musique. Après, quand je cours...
D'accord.
Quand je cours, pas plus que ça, j'aime bien aussi quelquefois m'entendre courir.
D'accord, ça se comprend. N'est-ce pas, Yodu ?
C'est ça, la respiration, faut s'entendre.
Et voilà.
Voilà.
Les sensations.
Et merci à vous pour l'invitation. Bravo pour ce podcast, l'initiative de mettre en lumière des parcours comme ça. J'écoute régulièrement.
Merci.
Et puis, big up à Yodu. Moi, je fais partie de la team chocolatine. Donc,
arrêtez avec ça. On n'en peut plus.
C'est pas un chocolat.
Voilà, merci Emeline. Bon, super. Merci Martin, à bientôt. Merci Emeline, à bientôt également. Dès que tu es de passage en France, tu es la bienvenue dans RMC Running. Merci Maître Yodu, encore un bon moment passé ensemble. Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.